Martineau, il n'a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Alors, on parle de nos voisins du Sud, les Américains, avec Luc La Liberté, spécialiste, bien sûr, de politique américaine que vous connaissez bien. Salut, Luc.
Oui, bonjour, Richard.
Écoute, tantôt, je parlais avec mon collègue et ami Alexandre Moranville Ouellette, qui est un expert en complot, et on parlait du fils de Robert Kennedy. Robert Kennedy, un de mes politiciens préférés au monde. Écoute, son fils, méchante bébite quand même. C'est un gars totalement anti-vax, là.
Écoute, il est impressionnant, Robert Kennedy, et je te laisse orienter le sens de l'expression du qualificatif impressionnant. Ça fait des années qu'il rame à contre-courant de beaucoup de tendances. Ici, on a eu des contacts parce qu'il est venu au Québec avec Robert Kennedy faire la promotion, surtout de la lutte au réchauffement climatique. C'est un environnementaliste de la première heure, donc il a embrassé ou il a chevauché différents chevals de bataille. Dans ce cas-ci, écoute, c'est étonnant de le suivre. On pouvait le critiquer, il était impliqué dans des controverses. Mais là, il est à l'opposé carrément de ce que recommande la santé publique américaine d'abord, mais aussi l'ensemble de l'expertise mondiale depuis le début de la pandémie. Donc, c'est un peu étonnant. Puis bien sûr, on en parle beaucoup parce que le nom Kennedy, ça évoque plein de choses pour à peu près tout le monde. C'est une notoriété qui est mondiale dans le cas de la famille Kennedy. Mais je pense que ça dessert la population américaine qui est déjà aux prises avec un clivage important.
Oui, mais ce que je comprends pas là-dedans, c'est que, tu sais, habituellement, moi, les anti-vax, je les associe surtout à la droite, aux libertariens, aux trumpistes, etc. Lui, tu dis que c'est un militant écolo, le nom Kennedy, on pense à la gauche lorsqu'on entend Kennedy, c'est un peu particulier quand même, il mêle les cartes.
Ben écoute, t'as utilisé l'étiquette libertarien. Je pense que à certains égards, ça lui colle à la peau très 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 bien, Robert Kennedy. Et assurément, quand tu parles d'antivax, c'est vrai. Hein, on essaie puis on en a beaucoup parlé chez nous. On en parle beaucoup aux États-Unis aussi. On essaie de voir quel serait le portrait type des antivax. Puis il y a une portion de gens qui refusent le vaccin, qui le font par peur. C'est irrationnel. Ou par manque d'information, c'est une autre portion de ce groupe-là. Assurément, c'est pas le cas de quelqu'un comme Kennedy, qui a eu accès aux grandes écoles, qui est quelqu'un de cultivé, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a étudié. Donc là, on y va souvent pour des questions de principe. Et c'est là où il va chercher, je pense, une partie d'appui. Mais il n'est pas si à gauche que ça. C'est une gauche qui ressemble un peu à ceux qu'on appelle les libertariens, c'est-à-dire il va dans certains dossiers, comme celui de la vaccination, à l'encontre complètement du pouvoir du gouvernement fédéral ou même du pouvoir d'un État d'imposer ou pas des contraintes, des mesures, dont la vaccination.
Écoute, en tout cas, un drôle de personnage. Et comment se porte Joe Biden ces temps-ci?
Quelle question en ce début 2022. Écoute, au plan de sa santé personnelle, je pense qu'il a rassuré quand même certaines personnes, peut-être même au sein de son parti, de par l'énergie qu'il déploie depuis le passage à la nouvelle année. On l'a senti dans un discours aux Américains beaucoup plus énergique. Puis on le sent depuis deux ou trois jours très, très préoccupé. Ça, je parlais de cheval de bataille pour Kennedy tout à l'heure, ça semble être le sien maintenant. Il est préoccupé par la démocratie et il est en mode attaque. Soit on le trouvait un peu fatigué ou on s'interrogeait sur son niveau d'énergie, comme le disait M. Trump auparavant, soit donc on s'inquiétait sur sa santé ou encore sur vraiment son désir de livrer une bataille. On s'interroge plus là-dessus. Il a l'air plus en forme, puis il est en mode attaque. Maintenant, est-ce que ça va bien? Les récents sondages, le plus récent, c'est hier, on lui donne 33% de taux d'approbation. Il y a 54 ou 55% de gens qui n'aiment pas ce que fait Joe Biden. Donc, c'est bien au-delà des lignes partisanes. Ça veut dire qu'il déçoit des républicains, ce à quoi on pouvait s'attendre, les pro-Trump manifestement, mais ça veut dire qu'il déçoit aussi beaucoup de démocrates.
Luc, dans son camp, est-ce que c'est vraiment inquiétant? Parce que quand même si t'es un démocrate déçu, tu te mettras pas à voter pour Donald Trump, là.
Ben, tu pourrais ne pas aller voter ou ne pas te présenter dans un rassemblement. J'aime bien que tu m'amènes là. Il y a deux jours, il fait un discours en Géorgie. Il se présente dans un État qui est un État pivot. C'est un État qui a donné deux sénateurs démocrates à la dernière élection puis qui a voté Joe Biden. Il se présente là pour parler de deux projets de loi qui visent finalement à empêcher qu'on dénigre ou qu'on limite le pouvoir d'inscription sur les listes électorales ou l'accès au droit de vote pour les minorités. Il se présente là et les principaux activistes pour ce même dossier en Géorgie décident de ne pas se présenter sur place. Et ils critiquent le président et ils critiquent les démocrates. Grosso modo, ce qu'on reproche à Joe Biden, c'est plus le temps de vous battre. On pense qu'on a perdu le dossier. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus énergique. Et le risque, dans ce cas-là, bien sûr, c'est de perdre soit des activistes ou, dans le cas de la Géorgie, de perdre des électeurs qui se disent « Nous, on était prêts à aller au front, puis le président arrive beaucoup trop tard. » Ça donne rien, je ne vais plus voter. Il est là, le risque pour Joe Biden. Sinon, parce que les démocrates, là, si M. Biden ne trouve pas une façon, puis je pense que c'était ça l'objectif de départ, si M. Biden ne trouve pas de moyen de remonter la côte, on se dirige en 2022 vers une Chambre des représentants à majorité républicaine, puis un Sénat à majorité républicaine.
Mais voyons donc.
Sans qu'on puisse accuser les républicains d'avoir trafiqué les résultats dans certains États, là, ou d'avoir influencé les résultats du vote. Donc, les démocrates risquent de perdre à la régulière. Et ça vaut pour l'élection de 2024. Donc, M. Biden, là, c'est ses problèmes plus personnels ou son leadership qui est remis en question. C'est plus que sa cote d'amour.
Écoute, Luc, tu es en train de me dire que peut-être, Trump pourrait revenir et encore plus fort que jamais.
Trump pourrait, on l'avait dit, hein, le Trumpisme, c'est pas mort avec la défaite de Donald Trump, puis le génie, si on veut, ou en tout cas, ce qu'a eu comme bonne idée Trump, c'est d'exploiter un filon qui était là. Puis il incarne pour ces gens-là une solution, mais ce groupe-là était toujours en place. Donc, ce qui est plus troublant, c'est si on n'arrive pas du côté d'une certaine gauche ou encore du côté de M. Biden, si on n'arrive pas à mobiliser au maximum les appuis dont on bénéficie, puis si on perd les mous ou l'entre-deux, si tu veux, là, il en reste de moins en moins dans un monde qui est très, très polarisé, il y a un risque réel. Et si c'est pas Donald Trump, on va avoir quelqu'un qui va naviguer dans les mêmes eaux et peut-être un peu moins impulsif et un peu plus stratégique. Donc, pour les démocrates, ce serait pas une bonne nouvelle. Un Trump moins impulsif et un Trump plus stratégique qui aurait une vision plus à moyen et long terme, pour les démocrates, c'est pire que le retour de Donald Trump.
Un Trump plus présentable, mettons.
Ben voilà, il pourrait mieux se présenter. Puis moi, je disais, peu importe, puis tu sais que j'étais pas un partisan de l'ancien président pour une foule de raisons, entre autres pour la protection des institutions démocratiques,
ben oui.
Mais Trump a souvent été son pire ennemi dans sa stratégie. Quand on le suivait, je me disais, ça y est, il peut vraiment renverser des choses, il peut vraiment parvenir à ses fins. Et parfois, il coulait lui-même son propre navire. Si on a Donald Trump plus aguerri, moins impulsif, je me répète, les républicains peuvent aller encore bien plus loin. Et moi, c'est ce que je regarde. On a toujours l'œil sur M. Trump parce qu'on le voit, il a encore beaucoup d'influence. On va baiser la bague du parrain, hein, du côté des élus républicains. Donc, on va s'incliner à Mar-a-Lago pour être certain qu'on a la bénédiction. Mais en même temps, il y a des joueurs qui se préparent. Ça peut être l'état de santé de M. Trump, ça peut être ses démêlés ou ses déboires devant les tribunaux. C'est pas impossible qu'il soit pas là en 2024. Il y aurait même plus de probabilités qu'il n'y soit pas. Ce qui est intéressant, c'est d'observer en coulisses ou en périphérie, comment les autres se préparent. Et ça risque d'être intéressant, mais j'ai envie de te dire, plus inquiétant pour les démocrates.
Tout à fait. Écoute, est-ce que tu as eu le temps de voir Don't Look Up?
Oui.
Le film sur Netflix. Lise-en un mot, parce que c'est peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu. Moi, je trouve ça incroyable, hallucinant comme film.
Écoute, c'est un bon film. C'est pas, je mettrais pas ça au niveau du chef-d'œuvre.
Non.
Je mettrais ça dans une course aux Oscars. Mais pour bien montrer à quel point, dans le monde actuel, on est souvent insensible aux priorités, aux sujets importants, pour bien montrer que parfois, là, collectivement, on dort sur la switch, hein, comme on dit, l'expression est pas très belle en français, mais je pense que c'est un film à voir. Quand on voit qu'on est détourné par le spectacle et que les véritables enjeux, on préfère les balayer sous le tapis, en faire comme si ça n'existait pas, je pense que ça, à gros traits, ça montre bien les principaux travers. Là. Quand on parle de déclin du monde occidental ou de déclin des États-Unis, je pense que ce film-là illustre assez bien le phénomène.
J'aime bien que tu dises à gros traits, effectivement, c'est surligné, c'est souligné, voilà. C'est une grosse farce, mais il y a une scène qui, moi, me jette à terre, c'est que le gars, c'est un scientifique, il sait que c'est la fin du monde dans quelques mois, il s'en va à l'émission la plus regardée à la télévision pour avertir les gens, préparez-vous, c'est la fin du monde, et on le met en troisième invité. Pas en premier invité. invité, pas deuxième invité. En troisième, parce que le premier invité, c'est une youtubeuse qui vient de casser avec son chum, qui est un rapper. Ça, c'est important, c'est génial.
Écoute,
ça.
Tu vois, je ris, mais en même temps, je ressens le malaise, mais je pense que ma réaction résume assez bien celle que la plupart des gens que je connais ont eu. C'est drôle. Mais c'est drôle parce que ça nous ressemble comme oui. société. Et c'est là où est le vrai malaise. On rit vraiment jaune. L'expression est un peu... on en abuse parfois, là, mais il y a vraiment ce malaise qu'on ressent tout en étant amusé par la situation.
Tout à fait. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une caricature? Parce que peut-être qu'effectivement, ouais. s'il y a un gars qui savait que c'était la fin du monde, peut-être qu'on le mettrait en troisième invité à Tout le monde en voilà, parle ou dans d'autres émissions.
C'est ça qui est gênant. On se dit, c'est fait pour nous tourner en ridicule ou c'est censé être une caricature, mais on se surprend à se dire, peut-être qu'on ferait la même maudite affaire dans le planning ou dans la programmation.
Effectivement. Puis écoute, on se laisse en Luc, Ronnie Spector, qui est morte, la chanteuse des Ronettes. Pour moi, ouais. Be My Baby, pour moi, c'est une de mes 10 meilleures tunes au monde. Je sais pas si tu es un fan des Ronettes, de ce genre de musique-là, mais donc, je veux rendre hommage à Ronnie Spector.
Oui, puis écoute, je t'ai lu, t'as relayé ça sur les réseaux oui. sociaux, puis je suis allé voir ce que t'as transféré, puis je te rejoignais. On a des goûts, qui se rejoignent souvent, puis écoute, je me retrouvais dans ce que t'as relayé.
Écoute, je trouve ça un des meilleurs débuts de tune de l'histoire de la musique pop. On se laisse là-dessus. Merci, Luc, La Liberté. Bonne semaine.
Une bonne semaine, Richard.
Salut.